Chers radiolibristes, voici une interview rien que pour vous avec la journaliste et aventurière Isabelle Alexandrine Bourgeois, enregistrée le dimanche 30 octobre 2022 à Fribourg, à l'issue d'une projection publique de son film « La route de la joie ». Dans celui-ci, elle rend hommage à des dizaines d'humains étincelants, ce qu'elle appelle ses « nominés de la joie », croisés lors d'un formidable périple de 40 000 km en camping-car, traversant 23 pays en Europe. Ce documentaire est en libre accès sur son site joyfortheplanet.org, à l'instar de centaines de capsules vidéo, articles et publications qui montrent la beauté de la joie, de moments partagés en toute humanité. Isabelle Alexandrine Bourgeois, très inspirante, nous parle dans cette interview de sa démarche, de ce qui est important pour elle dans la vie et de ses projets futurs. Retrouvez la page de ce podcast avec tous les liens utiles en cherchant le numéro 15387. 15387 sur le site radiolibre.ch. Je vous souhaite une toute bonne écoute.
Vous écoutez Radio Libre.
Bonjour Charlie.
On est le 30 octobre à Fribourg et là apparemment il y a eu la dernière projection du film La route de la joie. C'est juste
une des dernières, je pense, parce que il faut tourner la page maintenant. J'ai envie de me préparer à de nouvelles aventures. Je crois que cette aventure, la route de la joie, a rempli sa mission, c'est-à-dire être un soutien en pleine crise sanitaire, pleine de restrictions, où les gens étaient dans de la déprime, dans les doutes. Et donc d'offrir ce film, de le mettre gratuitement à disposition sur la chaîne YouTube de Joy for the Planet, a permis à beaucoup, beaucoup de gens, je le sais parce que j'ai reçu vraiment des milliers de retours, à se reconnecter à la plus haute humanité en eux, à la plus haute version d'eux-mêmes, par la joie, le rêve, l'espoir et l'humanité, la profonde humanité, qui doit retrouver un peu de pétillance et un peu de vie, parce que je pense qu'on a vécu des mois très difficiles, évidemment, qui nous ont imposé des mesures anti-vie au nom du respect de la vie. Donc ça peut être vraiment paradoxal. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se sont perdus dans tous ces messages contradictoires. Et ce qui souvent était vendu comme des démarches et des inactions et des initiatives pour protéger la vie, au fond, tuait la vie ou prenait la vie. Je pense évidemment à toutes ces personnes âgées qu'on a complètement isolées, dans des maisons de retraite, où ils n'avaient pas le droit d'être visités par leur famille, par leurs proches, et qui sont morts de chagrin, tout simplement. Voilà, il y a tant d'autres exemples comme celui-ci. Et donc, pour en revenir à mon aventure, La route de la joie, eh bien, j'étais heureuse de projeter ce film un peu partout en Suisse romande pour redonner confiance en l'homme, en l'avenir, puisque ce film retrace mon périple en 2018 à travers mon camping-car Bigoudi. Et j'ai traversé toute l'Europe pendant un an, 23 pays, 40 000 km parcourus à la rencontre de gens ordinaires extraordinaires.
Effectivement, ben, c'est bien de le rappeler, donc c'était un projet vraiment prémonitoire parce qu'il a commencé bien avant la crise du Covid. Donc il a servi un peu de remède pour remonter le moral aux gens. Mais à la base, il y avait quelque chose aussi que tu as expliqué un peu, ta démarche de te décaler par rapport à ce monde des médias que tu avais découvert aussi à travers les pays en guerre que tu avais visités, dans lesquels tu avais été active professionnellement. Est-ce que tu peux peut-être rappeler quelle était ta démarche en fait?
En fait, moi, je suis journaliste depuis 30 ans maintenant. J'ai travaillé pour toute la presse suisse, grosso modo, et je me suis assez vite rendu compte que tout n'était pas dit dans les médias et surtout, tout n'était pas dit de ce qu'il y a de plus beau parmi les hommes et sur la Terre. Et pour avoir travaillé comme délégué humanitaire avec la Croix-Rouge internationale dans des pays en guerre, comme en Iran, en Irak, au Kosovo, en Éthiopie, je me suis rendu compte qu'au cœur des conflits armés, j'étais témoin de beaucoup plus de beauté, de solidarité que relayaient les médias lorsque j'allumais la télévision le soir. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a vraiment une manipulation des consciences par omission de ce qui se fait de bien et de beau sur cette planète. Et j'ai décidé de me détacher des médias conventionnels pour devenir une journaliste libre, dans tous les sens du terme. C'est pour ça que je suis très heureuse d'être sur Radio Libre et promouvoir la beauté, la noblesse humaine, le courage, la solidarité et l'exemplarité. Et je pense que ça devrait être le rôle des journalistes aujourd'hui, c'est d'inspirer et de faire grandir l'humanité par l'exemplarité, par ces hommes et ces femmes qui surmontent des épreuves, qui ont le pouvoir de résilience et qui arrivent à se dépasser dans l'épreuve. Et c'est la raison pour laquelle, à travers ce parcours d'une année, où j'ai rencontré des gens ordinaires et extraordinaires, ces êtres-là, justement, sont une source d'inspiration pour leur entourage, par leur force, leur courage et leur faculté à transformer une épreuve en un combustible pour aller de l'avant.
Voilà, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce qui m'a surpris, c'est que ce n'était pas de la joie...
Bisounours. Voilà.
C'était une joie aussi dans des moments où des cadres de vie qui étaient compliqués. Hein. Il y a aussi des drames. Il y a des gens qui ont perdu leur vie, mais on voit qu'ils l'ont perdu finalement de manière très digne. Donc il y a ce témoignage aussi de cette maman là qui a repris sa vie totalement en main pour au final, après une vie qui était quand même assez soumise, rayonner de par sa manière d'être et d'inspirer d'autres. Il y a plein d'exemples. On te voit aussi, je l'ai appris aussi pendant le documentaire avec ton papa, donc qui avait été pris en otage. Ouais. Peut-être tu peux, voilà.
Oui, bon, mon père est ambassadeur de Suisse et lorsqu'il était à Bogota en Colombie, il a participé à une réception à l'ambassade de la République dominicaine où un groupe de guérilleros qui s'appelait le M19 avait donc fait assaut sur l'ambassade pour prendre en otage une dizaine d'ambassadeurs et aussi le nonce apostolique du pape. Et puis, mon père avait été pris en otage pendant deux mois. J'avais 12 ans à l'époque. Et heureusement, il a été libéré plus ou moins le jour de mon anniversaire. J'étais très soulagée, mais il en avait été vraiment très, très marqué. Et puis, comble de l'ironie, 30 ans plus tard, je participe à la première marche pour la paix et la non-violence, donc un parcours de 150 000 km à travers 76 pays, comme porte-parole pour les médias internationaux. Et en Colombie, l'organisateur de la marche mondiale me dit, dis donc Isabelle, est-ce que tu veux rencontrer un ancien membre du groupe M19 parce qu'ils se sont reconvertis en parti politique. Et il se trouve que le gouverneur de la province qui nous accueille en tant que marche mondiale pour la paix est un ancien membre du M19 et c'est un ancien guerrier héros et c'est le cerveau de la prise d'otage de ton papa. J'en tombe des nues. C'était à la frontière entre la Colombie et l'Équateur. Il me dit, est-ce que tu veux le rencontrer? Et j'ai dit, si je marche pour la paix, c'est le moment d'incarner mes pas. Ce n'est pas tout de sortir des banderoles avec des peace and love. Maintenant, c'est vraiment de confronter un épisode de ma vie qui a été douloureux. Et donc, j'ai rencontré cet homme qui était tout sauf un guerrier-héros sans trahir. Il était en costard avec un petit foulard en soie autour du cou, une petite monture de lunettes tout à fait intellectuelle. Et puis, il m'a demandé pardon. Il a dit, écoutez, c'est la première fois que je rencontre la fille d'un de mes anciens otages. Je vois combien ça vous a affecté et j'aimerais vous demander pardon. Alors évidemment, j'ai fondu en larmes, on s'est pris dans les bras. Et c'est vrai que c'était un grand moment de communion et de réparation. Puisque dans cette étreinte, il n'y avait plus de Colombiens, Suissesses, gentils, méchants, guerrieros, filles à papa, etc. On était plus qu'un dans cette étreinte. Toutes les différences se sont effacées. Donc c'est vraiment un très grand moment de cette marche mondiale. Et je l'évoque très brièvement dans mon film « La route de la joie ».
Avec beaucoup d'émotion, est-ce que c'est un passage, un moment qui a eu un écho médiatique en Suisse ?
Oui, parce que évidemment, on se souvient tous de la prise d'otage de mon père. Et puis surtout que c'est très rare quand un preneur d'otage rencontre et se réconcilie avec un proche d'un otage. D'habitude, j'ai reçu aussi des centaines d'emails de Colombiens qui m'ont dit « Non mais merci d'avoir fait ce pas, parce que nous, tous les jours, on assiste à des enlèvements, à des prises d'otages de nos proches, et on ne voit jamais une réparation, une réconciliation en direct. Et donc, ça a été effectivement extrêmement relayé et bénéfique pour tout le monde. Quoi. C'était un gros moment de... Ouais, c'était un moment inoubliable dans ma vie.
On voit aussi que tu aimes dessiner, tu aimes croquer un peu ton parcours, ton voyage. Et est-ce que ça, c'est quelque chose... c'est un côté idéaliste ou est-ce que, comment c'est venu, enfin, comment ça s'est passé dans ta tête, pendant ton enfance, enfin, à quel moment tu t'es dit c'est ces plats qu'il faut mettre en avant, cette beauté en image?
Merci Charlie, tu poses des super questions, ça fait vraiment plaisir. Les bonnes questions. En fait, comme je pense chacun sur cette terre, on a des enfances entre ombre et lumière, et j'ai eu des épisodes un peu compliqués dans mon enfance, et ma manière à moi de transformer une situation de souffrance en quelque chose de vivable, c'était l'humour. L'humour, et j'étais un pitre, j'adorais faire le clown, et j'aime toujours d'ailleurs faire le clown. Ça me paraît indispensable d'avoir de l'autodérision et puis de tout tourner en dérision. Je pense que c'est un remède indispensable pour toucher sa joie. Et une manière de m'évader aussi, quand j'en avais besoin, c'est de faire de la bande dessinée. Et depuis toute petite, je dessine sur les pupitres des écoles, sur les murs, un peu partout. Je griffonnais et je continue à griffonner des petits personnages de bande dessinée qui m'accompagnent et qui me permettent de prendre du recul et de la hauteur par rapport aux événements de la vie. Et justement, j'ai décidé, là, il n'y a même pas quelques jours, donc c'est la première fois que je le communique au micro, mais j'ai vraiment décidé de lever un peu le pied par rapport à l'organisation de toutes les conférences que j'ai l'habitude d'organiser depuis 2 ans, pour me centrer vraiment sur ma partie artistique. Et j'aimerais maintenant créer un album de bande dessinée, et je vais également proposer à tous ceux qui me suivent depuis des années de leur envoyer chaque semaine une carte postale avec un dessin. Parce que je pense qu'à une époque où tout est informatisé, numérique, les emails, etc., et où on ne reçoit plus que des factures dans la boîte aux lettres, on a peut-être envie encore de recevoir un beau dessin dans sa boîte aux lettres, une carte postale. Donc je vais lancer ce concept en début d'année prochaine, en me soutenant à raison d'un montant que je n'ai pas encore défini, eh bien, on recevra une fois par semaine dans sa boîte aux lettres un dessin, une caricature avec une citation, une pensée philosophique, toujours dans le but de nous donner la patate, de nous donner l'envie, le courage de traverser des épreuves que l'on connaît aujourd'hui sur le plan collectif et aussi sur le plan personnel et individuel.
Ça correspond tout à fait à la prochaine question que j'allais te poser, parce que à la première rangée ce soir, il y avait beaucoup d'enfants et je voyais qu'ils étaient fascinés par la manière que tu avais justement de raconter ton périple, et ça les captait. Et puis je me suis dit, mais voilà, tu pourrais devenir effectivement une conteuse d'histoires, faire des histoires pour les enfants en les dessinant, et puis apporter la joie, la paix, puis peut-être changer un peu la face du monde de cette manière.
Ouais. Ah mais vraiment, mais merci Charlie, tu m'amènes toujours à dire ce que j'ai vraiment cœur à partager. Et il se trouve qu'en effet, là aussi, il y a une semaine, je me suis beaucoup rapprochée d'Ariane Bihiran, qui est cette merveilleuse psychothérapeute française qui a écrit 30 livres dans sa vie et qui est notamment très connue pour ses conférences et ses prises de position contre le totalitarisme. Et on s'est beaucoup rapprochés et nous allons ensemble lancer une collection de livres pour enfants. Justement parce qu'on s'est dit maintenant, ce sont les enfants sur lesquels on aimerait mettre notre attention pour qu'ils ne perdent pas leur fil de la merveille, quoi, qu'ils ne soient pas détournés par la propagande, par les écrans, par le tout numérique, et puis qu'on continue à les accompagner dans leur faculté à rester purs quelque part. Et donc on va créer une petite collection très prochainement, dans l'esprit un peu Max et Lily, ces tout petits livres, pour que l'enfant soit conscient de l'étincelle de vie qu'il porte en lui, et qui ne se la laisse dérober par personne, par aucun adulte. Parce que ce que j'ai observé à travers cette aventure européenne et les 56 nominés de la joie que j'ai rencontrés, ce sont tous des grands enfants. Ils ont tous réussi à rester de grands enfants. Et quand je dis grands enfants, ce n'est pas irresponsable, inconscient, superficiel. Pas du tout. Ce sont des êtres d'une grande profondeur. Et en même temps, ils ont réussi à garder cette faculté à s'émerveiller de tout, de tout.
Effectivement, puis il y a un exemple aussi au début de ta conférence. Il y avait 4 adolescents, peut-être 12 ans, comme ça, qui étaient scotchés à leur téléphone. Et eux ne sont pas restés, en fait. Ils n'ont pas compris le concept. Et quand on a dit dans la salle de couper le téléphone, ils ont demandé pendant combien de temps. On a dit 2 heures. Ils étaient là avec des grands yeux. 2 heures. Et puis on voyait sur eux que vivre 2 heures sans leur téléphone, c'était une impossibilité cognitive.
Ouais. Oui, il y en avait même un qui avait encore ses AirPods dans les oreilles. Il n'était pas prêt à les quitter. Et... Ben voilà, après ça, la vie fait son tri. On ne juge personne, mais chacun va avoir la destinée qu'il a choisi d'avoir. Ça se décide très tôt. Mais en même temps, on ne peut pas tirer sur l'herbe pour la faire pousser. On ne peut pas forcer ces jeunes à se laisser toucher par une émotion, un témoignage profondément humain, un rêve d'adulte. S'ils sont complètement happés, si leur attention est happée par les écrans. Et puis en même temps, ben moi, je mets mon énergie maintenant sur les jeunes, les enfants et les adultes d'ailleurs, qui ont gardé encore ce feu sacré et qui sont prêts à nourrir leur curiosité dans la rencontre à l'autre et dans le moment présent. Voilà, on ne peut pas non plus dicter sa manière de voir le monde à tout le monde. Quoi. Chacun va à son rythme, là où il en est. Moi, c'est vrai que maintenant, je me concentre sur ceux qui ont envie de cultiver la joie. Mais comme tu disais tout à l'heure, pas une joie bisounours. Hein. On n'est pas dans le divertissement, le plaisir et la superficialité. On est plutôt dans une joie profonde, c'est-à-dire faire ce qui nous fait vibrer au quotidien. Est-ce qu'aujourd'hui, quand je vais faire telle et telle tâche ou quand je vais à tel et tel rendez-vous, est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que ça me rend vivant? Est-ce que ça me rend encore plus vivant qu'avant? Si la réponse est oui, vous êtes dans votre joie. Que ça soit un rendez-vous sérieux, peut-être solennel, peu importe. Mais il faut que ça nous fasse vibrer. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de cultiver notre vibration de la joie. Parce que c'est dans cette vibration de la joie, c'est-à-dire de se sentir la bonne personne au bon endroit, au bon moment, et de s'en émerveiller, eh bien c'est cette posture-là, cette vibration-là qui fait qu'on est incontrôlable et qu'on ne peut pas nous asservir et qu'on ne peut pas nous imposer de l'extérieur des lois absurdes, des mesures absurdes, mais qu'on est encore maître à bord de sa capsule corporelle, spirituelle, intellectuelle, et personne n'a le droit, n'est habilité à nous prendre en otage d'aucune manière.
Un grand merci.
Fille d'un ex-otage, qui vous le dit?
Fille d'un ex-otage. Un grand merci pour toute cette série que tu as faite, toutes ces années d'approche de l'autre et puis de travail vers la joie et puis vers l'humanité, je dirais. Et puis, on espère te retrouver très bientôt pour d'autres interviews sur tes prochains projets. Merci beaucoup.
Merci, Charlie. Vraiment, continue ce travail, cet engagement merveilleux qui est le tien, de promouvoir une information objective, indépendante, non émotionnelle, qui se documente sur des faits réels. Et vraiment, chapeau, parce que je sais que vous n'êtes pas nombreux. Et donc, je te tire mon chapeau, moi aussi.
Merci.
Radiolibre.ch est à la recherche de contributeurs. Vous avez des idées de musique engagées? Vous avez des textes engagés? Vous souhaitez nous faire parvenir une vidéo? N'hésitez pas à contribuer. Radiolibre.ch